Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Vous êtes de retour à Faudrait que tout le monde en parle. Et puis ben maintenant, ben c'est rare qu'on soit des invités en studio, mais je suis très content de le recevoir. Donc, je reçois Pierre-Alexandre alias Bardot, qui vient de sortir un nouvel album. Salut, ça va bien?
Salut Alexandre, ça va très bien et toi?
Ben oui, ça va super bien, merci. D'abord, félicitations pour Jour Inouï, donc qui va sortir en fait ce vendredi, mais dont quelques extraits roulent déjà ici à la station. Parle-nous de ce nouvel album-là que tu décris toi-même comme étant le plus écoutable. Qu'est-ce que tu entends par ça?
Ben, en fait, ça peut paraître ironique, mais c'était dans mes intentions dès le départ de faire un album plus écoutable. Parce que dans les précédents, j'ai volontairement un peu débridé mon imagination et j'ai mis aucune barrière. Et je dis pas que je l'ai fait présentement, que j'ai pas bridé mon imagination avec ce nouvel album-là, mais c'est que avant, c'était vraiment, ça partait dans toutes les directions, l'album précédent. Et je pense que le quatrième album, l'album précédent, justement, était vraiment le point culminant de cette démarche éclectique et exploratoire où il y avait une balade folk et des pièces prog metal et tout ça. Je pense que ça l'a un peu... je pense que ça l'a rebuté certaines personnes. Moi, j'étais très content de l'œuvre en soi, mais c'était un peu difficile d'approche. Et là, pour le nouvel album, je me suis dit... OK, il faut que ça soit un peu plus cohérent. Je vais juste comme trier mes idées sans nécessairement me restreindre. Je vais juste essayer que tout ça ait un semblant d'unité.
Ouais.
Et c'est peut-être pour ça que c'est le plus écoutable, selon moi.
Puis finalement, c'est quoi ce fil conducteur-là, mettons, qui unit un peu plus chacun des morceaux? Est-ce que c'est parce qu'ils ont tous été composés dans une espèce de même, on va dire... processus créatif d'une certaine façon, ou c'est plus au niveau des sonorités que là on voit une certaine forme d'unicité là? Où
est-ce que ça se situe? Dirais que c'est en fait c'est peut-être un peu, j'ai dirigé mes intentions et l'esthétique dans c'est très vague, mais dans une espèce de folk pop rock, ce qui veut vraiment dire pas grand chose.
Ouais.
Parce que ça peut être très pop, ça peut être très exploratoire tout en restant folk pop rock, mais c'est quand même ça dans le sens où ça demeure du Bardot. Il y a des petits trucs exploratoires. Et en même temps, il y a des beaux arrangements comme il y avait sur les précédents albums, des thèmes un peu similaires, existentialistes, spirituels, recherche de sens, société. Et tout ça, peut-être dans des formats qui sont un peu plus digestes, je dirais. Des chansons peut-être un peu plus courtes, un peu plus efficaces. Et ouais, c'est ça, en fait. Peut-être ça va un peu moins dans les extrêmes. Dans le très doux, ça va moins dans le très doux et ça va moins dans le très brutal.
Ouais. Est-ce que c'est un processus que tu as aimé faire avec un peu de recul? Là? Je sais pas si ça fait combien de temps que tu l'as enregistré, mais est-ce qu'au final, t'as pas eu trop le sentiment d'avoir trahi un peu ton espèce de liberté créatrice au profit de cette écoutabilité-là?
Non, pas du tout au final. J'ai vraiment fait c'est vraiment la même démarche un peu que d'habitude. En général, je compose des chansons chez moi et j'arrive à un certain point où on va en studio avec les musiciens de Bardot et là, il y a une espèce de blitz de création et d'enregistrement. Et cet album-là, c'était en 7-8 jours au studio B12 à Valcourt, où on est parti de rien. Puis quand on est sorti de là, on avait l'intégrale de l'album à part les arrangements de cordes.
Okay.
Donc pour moi, c'était la même démarche, je dirais. C'est peut-être juste quelque part dans le process. Quand est venu le temps de trier mes idées, j'ai peut-être juste mis un peu l'accent sur celles qui me semblaient un peu mieux, qui me semblaient former un univers cohérent, disons.
7-8 jours, je sais pas si c'est rapide ou lent selon tes standards, là, mais c'est quand même un peu intimidant que de rentrer en studio sans trop savoir où tu t'en vas. Là. Tu devais avoir un petit peu des maquettes, ou ben pas nécessairement de maquettes, mais une idée générale. Mais
ben, en fait, dans mon processus, j'essaie de pas avoir de maquettes, justement. Pour je fais vraiment quelque chose de minimal. T'sais, souvent, mes maquettes, là, ils pourront pas les sortir dans mon anthologie là, dans 30 ans, parce que c'est vraiment des maquettes.
Pas Paul McCartney qui va pouvoir faire un remix.
Non, Et l'intelligence artificielle ne sera jamais assez développée pour pouvoir faire quelque chose avec ces maquettes-là.
Ouais.
Mais au final, c'est ça. C'est volontaire que ça soit assez simple. Et comme ça, quand je donne ça... Parce que même quand tu donnes des maquettes aux musiciens, même si tu dis écoutez-la pas et on va faire quelque chose d'autre. Eux, ils arrivent en répétition, en studio, ils sont comme, ouais, mais dans ta maquette, là, il y avait cette... Mais moi, à chaque fois, je suis comme, mais faut pas l'écouter. C'était juste... c'était garoché, faut pas y en tenir compte. Et là, c'est pour ça que maintenant, je fais quelque chose de vraiment simple, qui donne pas vraiment un mood précis. Comme ça, quand on arrive en studio, tout est possible.
Ouais. Tu parles de cette orchestration de cordes, justement. C'était pas la première fois que tu en faisais, mais qu'est-ce que ça vient ajouter, tu trouves, à tes chansons? Pourquoi avoir décidé d'y retourner, justement, vers les cordes?
Ben, en fait, tout ça vient d'une espèce de trajectoire que j'ai eue depuis, je dirais, peut-être 6-7 ans, où je me suis mis à un certain point, avec le deuxième album de Bardot en 2019, j'ai commencé à écrire des cordes, et là, c'était assez minimaliste. J'avais juste écrit pour deux cordes, un peu de trompette, et j'y ai vraiment pris goût, et au final, au fil du temps, ça s'est développé, j'ai ajouté plus de cordes. Dans l'album précédent, il y avait comme un quintet de cuivre, de la flûte, deux chorales, et là, justement, encore une fois, sur le point de l'orchestration, c'était aussi l'espèce de point culminant. Et là, pour cet album-là, j'ai conservé mon désir de faire des arrangements, mais tout en ramenant ça peut-être à quelque chose d'un petit peu plus intimiste et un peu plus sobre en général. Et peut-être qu'on pourrait parler de maturité, peut-être dans cette volonté-là d'éliminer le superflu et de juste garder l'essentiel. Mais pour moi, les arrangements de cordes, en fait, ça me permet d'étoffer la proposition et de faire une espèce d'une couche supplémentaire où il y a peut-être quelque chose d'un peu plus... c'est comme une couche d'orchestration un peu plus classique, peut-être un peu plus intellectuelle aussi, plus sensible à certains moments, plus intellectuelle, où ça me permet de faire des enchaînements et de mettre en fait à l'œuvre mes influences classiques et aussi mon désir de connecter tous les points de la musique, parce que j'ai quand même un esprit mathématique en quelque sorte, et faire des arrangements, ça me permet de mettre une espèce de glue sur tout l'ensemble. Ouais. Et aussi, quand on a enregistré les sections rythmiques, quand j'arrive après, je me dis, OK, je veux écrire des arrangements, je peux voir un peu là où peut-être il manque peut-être une petite mélodie, ou après ça... Il y en a qui iraient simplement avec un synthétiseur, dire, ah oui, on va en studio, on va enregistrer des pistes supplémentaires. Moi, au lieu de ça, je me dis, j'ouvre la partition, je rajoute des cordes, un peu de cuivre. Là, il y a de la clarinette sur cet album-là, et c'est un peu ça qui rajoute à la fois le ciment de l'ensemble et peut-être le glaçage.
Tu es un artiste de la région aussi, puis tu l'as mentionné, le studio B12 à Valcourt. Est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est complexe d'être un artiste qui réside pas à Montréal ou à Québec, dans les grands centres, surtout Montréal, là, ben honnêtement. Là. Fait que, est-ce que c'est difficile ou tu y trouves quand même quelque chose, que ce soit une source d'inspiration, ou tu sais, à Sherbrooke, quand même une scène locale relativement développée. Là. Comment tu vois ça?
Ben en fait, j'avoue que c'est que je suis un artiste local, oui, en théorie, mais je me suis tellement peu impliqué dans la scène locale pour l'instant. Et je peux pas vraiment dire que je la connais beaucoup, parce que essentiellement je travaille à domicile. Je fais mes projets, ma création chez moi. Et avec mes autres projets, souvent je vais à Montréal. Et j'ai même pas fait de spectacle vraiment à Sherbrooke. Le premier spectacle que je vais faire à Sherbrooke, c'est avec mon autre projet Fudge, qui va être là. La semaine prochaine, justement, dans une semaine, à la petite boîte noire. Et je pense que c'est la première fois que je vais jouer à Sherbrooke. Okay. En fait, dans le temps, j'avais un projet qui s'appelait Le Roi Poisson. Je ne sais pas si tu te rappelles Le Roi Poisson.
On a sûrement un album en quelque part.
Oui, c'est ça. C'est pas en haut de mon CV, disons, mais c'était quand même le fun. Et il y avait juste un membre de Sherbrooke, mais étrangement, on était désigné comme un groupe de Sherbrooke.
Ah ouais.
Et on était comme des artistes de Sherbrooke aux yeux de je sais pas, des médias à un certain point.
C'est comme Arcade Fire, qui est un band de Montréal.
Ouais, c'est un peu ça, peut-être. Ouais. Mais nous, on était à Montréal, mais il y avait un artiste de Sherbrooke, en tout cas.
Ouais.
Et au final, c'est quand même drôle que maintenant, je me retrouve à Sherbrooke. C'est quand même un hasard. Mais je peux pas dire que je sois impliqué dans la scène. Je vois, par contre, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes, comme il y a beaucoup de groupes metal à Sherbrooke, non?
Ouais.
Est-ce que je me trompe ou...
Ben, je pense qu'il y a un des membres de... C'est-tu Anonymous? Je pense qu'il reste à Richmond, quelque chose comme ça. T'sais, pas trop loin d'ici. Je sais qu'il y a le Beam aussi qui attire quand même beaucoup d'artistes dans la région. Mmh. Puis c'est moins loin que la Gaspésie, j'imagine. Ouais, ouais. Fait que ça doit attirer son lot d'artistes. Mais effectivement, je pense qu'on aime ça s'approprier nos artistes parce qu'on n'en a pas tant que ça. Il y a une personne de Blue Jeans Bleu, je pense, qui vient de Sherbrooke. Fait qu'on est comme, c'est un band de Sherbrooke. Là, fait que, ouais. Mais heureusement, on est assez proche de Montréal, ce qui permet de faire des shows aussi plus souvent.
Moi, je vais souvent à Montréal en bus et au final, j'ai pas l'impression d'être comme... C'est pas comme si on était à Matane.
Non, c'est ça.
Je reste connecté à Montréal.
T'as fait tes spectacles de lancement la semaine dernière. Là, j'ai pas les dates sous les yeux. Ah non, c'est... Ouais, c'est ça. À Québec, le 8... Attends, tu veux, je me perds dans mes dates, là, je vois du mars.
Ouais, on va faire
c'est
ça.
C'est en
mars.
Ouais, c'est ça. OK. À quoi, justement, les... Ben, premièrement, est-ce que c'est juste un... two-time deal ou si tu comptes partir en tournée par la suite? Puis à quoi est-ce qu'on va pouvoir s'attendre de toi ou de ta gang sur scène?
En fait, si je le savais, je te le dirais.
Ah ouais?
C'est tout le temps... C'est tout le temps
pour ça que tu l'as mis en mars, c'est que tu sais pas
encore.
Ouais,
c'est pour ça qu'on l'a mis en mars. Puis là, en fait, ce que j'ai un peu décidé pour moi, c'est que les spectacles de cet album-là, ça va être un peu la tournée d'adieu de Bardot.
Ah
ouais? En fait, ouais, c'est comme une des choses que je me suis dit récemment. Parce que...
Adieu, fini.
Bardot.
Ou...
Je pense que en fait, c'est un peu bizarre parce que j'ai eu cette réflexion-là récemment et je me suis dit, je veux faire... Je lance cet album-là, je fais des albums 2024, je lance un nouvel album à la fin de 2024 parce que j'ai déjà prévu l'enregistrement, tout ça.
Okay.
Et là, ça, c'est la fin de Bardot.
Ah ouais?
Et ça, ça peut paraître un peu bizarre comme décision parce que justement, l'album qui sort en ce moment, pour moi, c'est le meilleur et le plus accessible. Mais je crois qu'avec un projet, souvent, quand tu arrives à 5-6 albums, en tout cas, même avant ça, parfois, tu as quand même un peu déjà défini ta personnalité. Et tu as quand même un peu imposé ton son et tout ça. Et les gens ont eu l'occasion de te découvrir. Et pour moi, je pense que Bardot s'est un peu peinturé dans un coin en faisant quelque chose d'un... Mais peut-être que je vais continuer sous un autre nom. Mais je pense que Bardot est comme devenu tellement éclectique à un certain point que on dirait que j'arrive aujourd'hui puis je me dis, ce projet-là a perdu son identité. T'sais. Je ne sais pas c'est quoi l'identité. Et parfois, je me dis, même pour d'un point de vue professionnel, tout ça... Peut-être que je devrais resserrer le tir et faire quelque chose de différent. Mais je sais pas. En fait, pour moi, dans la prochaine année, je me suis juste dit, c'est la tournée d'adieu. Et peut-être que je vais changer d'idée, mais en ce moment, c'est ça que je me suis dit que j'allais faire. Et en fait, la tournée d'adieu, elle commence avec le lancement de Jour Inouï, le nouvel album, et elle va finir avec le lancement du prochain.
OK.
Donc, c'est ça mon plan. Est-ce que ça fait sens?
Ouais, mais c'est triste, c'est dommage d'entendre ça parce que, évidemment, nous, on en fait jouer beaucoup ici à la station. J'apprécie beaucoup, mais en même temps, c'est un peu comme Tarantino qui veut arrêter après 10 films parce qu'il se dit, ça sert à rien d'étirer la sauce jusqu'à temps que ce soit plus bon. Fait que,
ouais.
Je pense que, c'est parfait. Puis tu es impliqué dans d'autres projets aussi. Là,
c'est que je me suis. Je pense que ce qui me tanne un peu dans un projet qui est une espèce d'esthétique un peu pop-folk et qui essaie de faire sa place un peu comme Bardot, c'est plus tout le travail de réseaux sociaux puis d'auto-promotion.
Ouais.
En fait, des fois, je me dis, autant j'aime ça, la musique, tout ça, mais je pense que si je me détache de cet aspect d'auto-promotion et compagnie, je vais potentiellement être plus heureux.
Mm-hmm.
Et parce que c'est quand même vraiment très lourd.
Quand tu lances. Du travail. Il faut que tu sois présent tout le temps. Il faut que tu fasses des TikTok à cette heure, des affaires.
Ouais,
de
moi, je me retrouve à faire ça constamment. Puis il y a plein de moments où je me dis, mais c'est, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis un musicien? Est-ce que je suis un artiste?
Ouais. Si c'est un promoteur.
Ouais, c'est juste, je passe 80% de mon temps à faire ça. Puis des fois, je me dis, si je me détache complètement de ça, de la notion de carrière, de développement de Bardot, si ça se trouve, je vais faire plus de musique.
Mm-hmm.
Parce que, en fait, c'est ça mon objectif, tu sais, c'est de créer de l'art. Et si tu es dans un projet que tu veux commercialiser et développer, tu fais beaucoup d'autogestion. Et Des fois, je me dis que je ferais sûrement plus de musique et d'art si je travaillais au couche-tard et je faisais du bardo à temps partiel.
Ouais. Mais... Ben, c'est une façon intéressante de le voir, surtout pour des artistes justement indépendants, là, parce que ceux qui sont signés avec les gros labels, souvent, t'as une équipe qui vient avec tout ça et tout. Là. Mais pour la scène indépendante, justement, c'est très difficile de réussir à percer ou en tout cas de faire sa place dans une scène qui pourtant n'est pas si grosse que ça, là, la scène musicale québécoise, là, mais... Tout le monde s'arrache un peu le même public. Puis, tu sais, c'est de toujours être présent. Puis, je pense que c'est comme ça dans bien des sphères aussi, dans d'autres métiers. Là, que ce soit ici, les médias, c'est toujours continuer à.
Ouais, les
à
entrepreneurs
publier,
en général. Ouais. Si tu pars une business de chocolat ou n'importe quoi,
ouais.
Il faut que tu sois présent, il faut que tu fasses des. Fait que c'est un peu la même dynamique. C'est juste que. On dirait que c'est.
C'est pas pour ça que tu fais de la musique.
Ouais, c'est un peu un prérequis en. En musique, et je pense qu'il y en a qui réussissent à le faire très bien et qui sont naturellement vont poster là-dessus, mais peut-être que moi j'ai une personnalité un peu addictive et quand je me retrouve à faire tout ça, on dirait que j'essaie d'en faire peut-être trop ou je le fais mal, puis je me retrouve en bout de ligne où ça me prend beaucoup d'énergie mentale.
Ouais.
Mais je pense que le geste de dire OK, je vais mettre fin à Bardo, déjà je me sens comme OK, j'ai plus besoin de le promouvoir, puis j'ai déjà plus envie de faire de la musique, même si ça n'a rien changé concrètement. Tu sais, j'ai décidé ça, je me suis dit ça cette semaine.
Ah oui.
Mais non, mais ça me trottait dans l'idée.
Ouais.
En fait, c'est totalement la primeur. Mais je me suis dit ça cette semaine, puis on dirait que ça se développait au fil des semaines. Là, je me suis dit OK, c'est la fin. Et juste de dire ça, je me suis dit OK. J'ai plus besoin d'en faire la promotion. Genre, je peux juste. J'ai plus à m'en soucier et je me sens déjà libre. Et peut-être que je vais changer d'idée.
Ouais.
Mais le fait de me dire ça, ça allège mon esprit déjà.
Ouais. Mais si jamais tu changes d'idée, on enlèvera l'entrevue de nos réseaux, c'est tout. Écoute,
on fait une tournée réunion. Après.
Ouais, c'est ça, exactement.
Après cette tournée d'adieu-là, ça va être un revival ou quelque chose.
Tu vas pouvoir sortir Great Acid puis toutes ces affaires-là. Écoute. Tant mieux, ça va être une année de célébration 2024 pour Bardo à ce moment-là. Écoute, en terminant, on va aller écouter Tabarnak qui va se trouver sur ton prochain album. Pourrais-tu nous la présenter vite en terminant?
Oui, Tabarnak, c'est une toune qui se veut un peu dans une esthétique, je dirais, Fred Fortin, grunge folk du terroir, disons. Et c'est une chanson où le tabarnak, au fil de la répétition, prend un tout autre sens où... Le premier tabarnak, c'est un tabarnak de béatitude où « Ah, tabarnak, il fait beau ici, tabarnak, je suis heureux, blablabla. » Et plus ça avance, et plus le personnage de la chanson, qui est un peu moi, disons-le, commence à comprendre que malgré qu'il y ait tout ce bonheur et toute cette joie autour de lui, il a de la misère à être heureux. Et là, le tabarnak devient de plus en plus amer. Et le dernier tabarnak, c'est un tabarnak un peu désespéré. Et c'est ça la chanson.
Donc, Jour Inouï, c'est disponible ce vendredi avec des spectacles de lancement en mars prochain. Pierre-Alexandre, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler.
Merci à vous. Mieux l'éviter.